Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre Petr Nečas en Slovaquie pour son premier voyage à l'étranger. Les inondations de ce week-end ont laissé de graves dégâts en Bohême de l'Est. La Bibliothèque nationale de l'architecte Jan Kaplický redevient d'actualité. Le Premier ministre Petr Nečas est en visite en Slovaquie ce lundi, respectant ainsi la tradition selon laquelle le premier voyage à l'étranger des nouveaux chefs du gouvernement tchèque s'effectue chez le voisin slovaque. À cette occasion, Petr Nečas a été reçu par son homologue Iveta Radičová. Il a constaté que les deux pays étaient dans une situation semblable après les élections et entamé un nouveau cycle politique semblable au cours duquel les priorités seront la consolidation des finances publiques et la réalisation de réformes. Les inondations de ce week-end ont endommagé 178 maisons dans la région de la ville de Chrudim en Bohême de l'Est. La pluie dans la région a été diluvienne. 160 litres d'eau par mètre carré sont tombés de samedi à dimanche dans les bassins des rivières Chrudimka, Doubravka et Novohradka. Les plus grands dégâts ont été enregistrés dans la région de Hrochovtinec, dans la vallée de la rivière Novohradka, où a été décrété l'état d'urgence du troisième degré ce lundi. Le niveau des rivières dans la région est déjà en baisse. Le projet de la nouvelle bibliothèque nationale tchèque de l'architecte Jan Kaplický redevient d'actualité. Selon le journal Hospodářské noviny, Gazette économique, tous les partis politiques représentés au Parlement, à l'exception du Parti civique démocrate ODS, seraient favorables à la réalisation de ce projet futuriste surnommé « blob » ou « pieuvre ». 294 personnes sont mortes sur les routes tchèques au cours des 6 premiers mois de cette année. Il s'agit du plus faible total de ces 21 dernières années. Le chiffre a été communiqué ce lundi par la police nationale. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, estime que les décrets Beneš qui ont permis l'expulsion et l'expropriation des Allemands des Sudètes de Tchécoslovaquie après la Deuxième Guerre mondiale ne peuvent pas être abolis. Le chef de la diplomatie tchèque a fait cette déclaration dans une interview publiée dimanche par le quotidien autrichien Die Presse. Une équipe de l'université de Plzeň en Bohême de l'Ouest vient de publier un livre qui retrace les événements historiques liés avec les rideaux de fer entre la Bavière et la Bohême, avec le mur de Berlin et aussi en partie avec la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La majorité du tirage, de 500 exemplaires, a été distribuée gratuitement dans les écoles primaires et secondaires dans la région de la ville de Plzeň. Météo. Ce lundi, fête de tous les Tchéniques selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est variable à nuageux, avec quelques rares averses sur l'est du pays. Les températures ne dépassent pas 25 degrés. Mardi, le ciel en Tchéquie sera clair à variable et les températures diurnes se situeront entre 23 et 27 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Aujourd'hui, nous vous donnerons quelques détails au sujet de la berce du Caucase, une plante qui a envahi la Bohême occidentale. Nous parlerons aussi du succès que rencontre actuellement le compositeur tchèque Leo Janáček à l'Opéra de Strasbourg. Et comme tous les lundis, des volets sportifs et musicaux sont aussi au menu de notre émission. La Bohême de l'Ouest est confrontée depuis plusieurs années à la propagation d'une plante envahissante, la berce du Caucase, aussi appelée berce géante. Bien que sa prolifération soit difficile à contrôler, la ville thermale de Marianské Lázně et les communes environnantes ont décidé de réagir. Et pour cela, elles peuvent compter sur des fonds européens. Guillaume Narguet.
Originaire du Caucase, comme son nom l'indique, il semble que la berce géante ait été importée comme plante ornementale en Europe et d'abord en Grande-Bretagne dans la première moitié du XIXe siècle. Concernant la République tchèque, elle y aurait été introduite pour la première fois probablement en 1862, précisément dans un jardin botanique de Lázně-Kynžvart, ville thermale de Bohême de l'Ouest. À partir de la moitié du XXe siècle, la culture de la berce a toutefois été progressivement abandonnée, son développement posant alors déjà problème essentiellement en Europe centrale, mais aussi dans d'autres pays comme la Belgique ou le nord et l'est de la France. Depuis plusieurs années, les autorités de la région de Karlovy-Vary s'efforcent donc de lutter contre l'omniprésence de la berce du Caucase sur leur territoire. Responsable du département en charge de l'environnement à la municipalité de Marianské Lázně, Lenka Potsova explique pourquoi la présence de la berce géante est gênante depuis qu'elle s'est échappée des parcs et jardins.
Le problème de la berce du Caucase est non seulement qu'il s'agit d'une espèce qui n'est pas originaire de notre région, ce qui ne serait pas encore trop gênant, mais qui est aussi très envahissante et agressive. Sa prolifération se fait aux dépens de la flore originelle. Il existe une biodiversité quasiment nulle dans les localités où se développe la berce. Les seules autres plantes que l'on peut trouver sont l'ortie et le gaillet. En seulement quelques saisons, la berce est capable de coloniser tout un champ si celui-ci n'est pas cultivé.
Plante toxique pouvant entraîner de sévères brûlures et atteindre jusqu'à 4 mètres de haut à l'état adulte, la berce du Caucase colonise essentiellement les milieux sauvages et apprécie particulièrement les zones fraîches et humides. Selon les responsables de la région de Karlovy-Vary, elle gagnerait plusieurs dizaines de mètres de terrain chaque année. La municipalité de Marianské Lázně a donc mis sur pied un projet pilote de liquidation de la plante d'un montant évalué à 17 millions de couronnes, soit 680 000 euros sur une période de 4 ans. Les travaux ont été entamés récemment avec l'aide de l'Union européenne et seront effectués dans une zone définie d'une superficie de 140 km² où la berce géante occupe environ 700 hectares. Lenka Potsova est convaincue du succès de l'opération.
Nous possédons déjà une certaine expérience, puisque cela fait une quinzaine d'années que nous luttons pour la destruction des populations de berce. Nous savons ainsi désormais qu'en utilisant des préparations chimiques appropriées, c'est-à-dire en utilisant des herbicides sélectifs et non pas totaux, nous sommes en mesure de limiter la propagation de la berce dans certaines localités et même de la détruire complètement sur une durée de 3 ans. Mais le problème est que nous ne pouvons intervenir que sur les terrains qui sont la propriété de la ville et non pas sur les terrains voisins, propriété privée.
Pour l'heure, il manque encore l'accord de certains des 2500 propriétaires concernés. Mais quel que soit le résultat, la région de Karlovy-Vary dans son ensemble entend à terme lutter de manière plus systématique contre la prolifération de la plante.
L'Opéra national du Rhin à Strasbourg met Leo Janáček particulièrement à l'honneur. Derrière cette envie de faire découvrir un compositeur parfois trop ignoré du public, hors des frontières de son pays, Marc Klemmer, le directeur de l'opéra. Fin juin, la saison s'est achevée sur Yenoufa, mais la prochaine prévoit déjà d'autres œuvres de Janáček, comme l'a confié Marc Klemmer au micro d'Anna Kubischta.
Yenoufa, en fait, peut-être c'est la fin de la saison 9-10, mais c'est aussi le début d'un cycle. Et donc, ce cycle sera dédié à Janáček, que moi je trouve un des plus grands compositeurs d'opéra du XXe siècle, pas toujours assez reconnu comme tel par le grand public. Donc je crois qu'il était grand temps de dédier tout un cycle à ce compositeur. Et donc on commence avec Yenoufa, mais on continuera la saison prochaine avec une nouvelle production de l'affaire Makropoulos. L'année d'après, il y aura Katia Cabano, et peut-être encore on ira plus loin après.
Vous dites justement qu'il n'est parfois pas assez reconnu par le public. Comment est-ce que vous expliquez finalement un peu cette ignorance ou disons peut-être cette incompréhension?
C'est C'est-à-dire, il a un langage musical qui n'est pas facile. Quand on sait qu'à la même époque, il y avait encore Puccini et Strauss qui composaient, on sait que son langage est plus difficile. Deuxièmement, il y avait toujours la langue tchèque. Vous savez qu'en Allemagne, on a longtemps joué Janáček en traduction allemande dans la traduction de Max Brod. Mais moi, je crois que c'est une erreur de faire Janáček en traduction parce que la langue est tellement liée au langage musical et au rythme tchèque spécifique que donc il faut le faire en tchèque. Mais maintenant, avec les surtitres, je crois que ce problème a été éliminé. Et un troisième élément, je crois qu'il est dû aux mises en scène. Et c'est pour ça que j'ai choisi un aussi grand metteur en scène que Robert Carsen pour faire ce cycle, parce que beaucoup de mises en scène que j'avais vues des œuvres de Janáček restaient trop dans un certain folklore tchèque. Alors que je crois que ces drames sont tellement importants quand on voit, par exemple, la Kostelnička qui tue l'enfant dans Yenoufa, ça fait penser à Médée qui tue ses enfants. Ce sont presque des drames grecs qui dépassent, disons, un cadre de temps et de place. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi Carsen qui en fait des drames universels, je dirais. Voilà.
Et alors, quelles ont été un petit peu, justement, ces options de mise en scène, si vous pouviez un petit peu éventuellement décrire pour les personnes qui ne l'auraient pas vu?
Oui, par exemple, je vais vous dire, pour Yenoufa, il y a un dépouillement total, c'est-à-dire c'est une scène vide sur laquelle se trouve de la vraie terre, mais donc de la vraie terre brune que vous voyez à la campagne, dans les villages. Et là-dessus se trouve un ensemble de portes et de fenêtres qui sont bougées, donc qui sont des éléments légers, qui sont bougés par les choristes et les figurants, et qui en font toujours des configurations différentes pour suggérer parfois le cadre très très étroit dans lequel se trouve Yenoufa, qui n'est pas accepté par la population du village. Et à la fin, quand la Kostelnička confesse donc qu'elle a tué cet enfant et que Latsa et Yenoufa veulent commencer une nouvelle vie, il y a une énorme pluie qui tombe sur la scène et les deux sont tout à fait mouillés, ils sont tout à fait lavés par cette pluie, comme s'ils voulaient se défaire de tout leur péché et tout ce qui s'est passé avant pour commencer une nouvelle vie. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire, je dirais. Oui.
Et en ce qui concerne le chef d'orchestre, comment avez-vous fait votre choix pour justement trouver quelqu'un qui aborde Janáček de la meilleure façon qu'il soit?
Vous savez, notre théâtre n'est pas énorme, nous avons 1200 places, et souvent quand j'entends Janáček dans des théâtres de cette taille, il y a le danger, puisque l'orchestration est très importante chez Janáček, de couvrir les voix. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un chef d'orchestre qui dirige Janáček d'une façon très analytique, c'est-à-dire qu'on entend toutes les voix, que ça reste très transparent, je dirais un peu dans la tradition d'un Pierre Boulez. Si vous entendez Wagner avec Pierre Boulez, ça sonne complètement différent de quand vous entendez Wagner avec Knappersbusch, par exemple. J'ai recherché un chef d'orchestre qui recherche, lui, une énorme transparence. Voilà. Et ça, c'est donc Friedemann Laier, qui avait déjà dirigé beaucoup de Janáček, entre autres à l'Opéra de Paris aussi, qui fera tout ce cycle.
D'accord. Donc également la Fermakopoulos et Katia Kabanova, et également Robert Carsen, alors à la mise
Absolument.
En scène.
Absolument. Tout le cycle sera mis en scène par Robert Carsen et dirigé par Friedemann Laier. Donc c'est vraiment un grand projet sur plusieurs années.
Oh,
Jusqu'ici donc, Marc Klemmer, directeur de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg. Et c'est sur cet entretien que se termine les faits événements en République tchèque. Notre programme se poursuit.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au sommaire de laquelle figurent cette semaine cyclisme et football. En cyclisme tout d'abord, Roman Kreuziger a vécu une semaine difficile sur le Tour de France, 7e au classement général en fin de semaine dernière après la première étape alpestre. Le seul coureur tchèque engagé sur la grande boucle cette année se retrouvait en 12e position une semaine plus tard, dimanche soir, à l'issue de la première étape pyrénéenne. Et puis en football, la Gambrinus Liga, le championnat tchèque de première division, a repris ses droits ce week-end et la première journée a notamment été marquée par la fin de la série d'invincibilité du Sparta de Prague. Le champion en titre s'est incliné chez un promu après 33 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Mais on commence donc avec du cyclisme. Avant la première étape dans les Pyrénées, Roman Kreuziger avait prévenu que certains coureurs feraient les frais des deux étapes précédentes de vendredi et samedi, disputées à un rythme élevé malgré la difficulté du terrain. Mais le Tchèque ne pensait sans doute pas faire partie des victimes de la 14e étape de dimanche, dont l'arrivée était jugée à axe 3 domaines, lâché à 7 km du sommet par le groupe dans lequel figuraient le maillot jaune Andy Schleck et l'Espagnol Alberto Contador. Kreuziger a finalement franchi la ligne d'arrivée en 28e position avec plus de 3 minutes de retard sur le vainqueur du jour, le français Christophe Riblon, et près de 2 minutes sur le luxembourgeois et l'espagnol. À sa descente de vélo, le tchèque, qui affirme pourtant rouler mieux de jour en jour, n'a pas caché sa déception.
J'ai
eu du mal à réagir au rythme imposé dès le début de la dernière ascension. J'ai donc préféré monter à mon rythme car j'ai senti que je manquais de force pour les accompagner jusqu'au sommet. Je ne sais pas trop quoi dire. Les autres pédalaient plus vite que moi, tout simplement. Mais je suis déçu, je m'attendais à autre chose et pas vraiment à ce que les autres soient encore meilleurs. Aujourd'hui, je n'avais pas les jambes pour les suivre. À l'issue de la 14e étape et avant d'aborder les 3 prochaines étapes pyrénéennes, c'est lundi, mardi et jeudi, Roman Kreuziger a donc reculé de 2 rangs au classement général. Il occupait la 12e place avec 7 minutes et 11 secondes de retard sur le leader Andy Schleck. Il a donc abandonné sa place parmi les 10 premiers, son objectif avant le départ du Tour, une 10e place qu'il avait pourtant retrouvée vendredi au terme d'une 12e étape très animée sur la fin. À l'arrivée à Mende, le Tchèque 10e avait certes terminé avec 15 secondes de retard sur le vainqueur Samuel Sanchez et Alberto Contador, et 5 secondes sur Andy Schleck et d'autres coureurs, mais il avait plutôt réalisé une bonne opération, Roman Kreuziger. Je me suis surtout efforcé de rester avec Menchov. J'ai perdu quelques mètres et quelques secondes sur lui sur la fin. Il a rejoint le groupe de Schleck et Clauden. Sur les 2 derniers kilomètres, il n'y avait plus personne pour nous aider. Leifheimer, qui a fini juste derrière moi, était à bloc. Il ne pouvait pas en faire plus. Dans l'ensemble, je suis donc plutôt satisfait. Les pertes de temps sont minimes, mais cette étape n'avait rien à voir encore avec les Pyrénées. Là-bas, ce sera complètement différent. On le sait, Roman Kreuziger a donc souffert lors de la première des 4 étapes dans les Pyrénées, comme il avait déjà souffert dans la 2e étape alpestre mardi dernier qu'il avait terminé avec 3 minutes et 46 secondes de retard sur le duo Schleck-Contador. Il lui reste désormais la 3e semaine de la course, au programme de laquelle figurent notamment 3 étapes de montagne et un long contre-la-montre, pour refaire une partie de son retard et réintégrer le top 10 au classement général avant l'arrivée à Paris dimanche prochain. On passe au football. Une semaine seulement après la finale de la Coupe du Monde, la Gambrinus Liga, le championnat tchèque de première division, a donc redémarré. Le Sparta de Prague, sacré en mai dernier, après 2 saisons précédentes dominées par son grand rival du Slavia, remet son titre en jeu. Cette première journée était marquée notamment par deux affiches. Vendredi tout d'abord, les Bohemians de Prague et le Slavia de Prague se sont affrontés en match avancé pour ce qui constituait le premier derby de la saison entre clubs de la capitale. Les Bohemians et le Slavia se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Il s'agit d'un résultat plutôt décevant pour le Slavia qui entend retrouver le haut du classement cette saison après un exercice précédent achevé une décevante 7e place. À noter que le match s'est déroulé devant une faible assistance, à peine 6000 spectateurs, la majorité des supporters des deux camps ayant manifesté dans le même temps à l'extérieur du stade pour protester contre le déménagement des Bohemians. À partir de cette saison, en effet, ces derniers, dont le stade originel ne répond plus aux normes imposées par la Fédération tchèque, joueront leur match à domicile dans l'enceinte du Slavia, une décision qui ne plaît à aucun des deux camps de supporters, et ce bien que les installations de ces deux clubs historiques de Prague, situés dans le 10e arrondissement, soient distantes de seulement quelques centaines de mètres. L'autre affiche de cette première journée était le déplacement du Sparta de Prague chez un des deux promus, Hradec Králové, et surprise, l'équipe de Bohême de l'Est a logiquement battu 2-1 le champion en titre, mettant ainsi fin à la série d'invincibilité de 33 matchs en championnat du Sparta. Mais au coup de sifflet final, bien plus encore que la fin de cette série, c'est la prestation de ces joueurs qui a provoqué la colère du manager du Sparta, Josef Rovanec. Le jeu en mouvement très simple et direct de Hradec nous a causé beaucoup de problèmes. Nous avons fait un très mauvais début de match pendant lequel nous avons regardé jouer notre adversaire. Nous l'avons laissé développer ses combinaisons et je dirais que mes joueurs étaient même paresseux aujourd'hui comme s'ils n'avaient pas envie de courir. On savait pourtant que pour son retour en première division, il fallait s'attendre à beaucoup d'enthousiasme de Hradec. Dans les autres rencontres, le FC Slovacko s'est imposé 3-0 contre Teplice et prend donc symboliquement la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but. Juste dernière, on retrouve Mladá Boleslav, l'équipe dans laquelle évoluent les Français Ludovic Sylvestre et Noël Mendy, est venu à bout 2-0 d'Oustina de la Bem, l'autre club promu cette saison.
Et encore un air de musique dans notre émission.
Na zimu si zamkli dům, na posledky v sousedů. I růže jsou ukrytý bez listy.
Un peu de musique quand même. Jarka Gisubelova.
Bez naději opak zázraku, svět se ve dvou. Že co se schová, to se postrácí. Proto jsou zámky otevírací. Noc je ukrývá, den už se nedívá, jak smí. A ráno jim odletí.
La chanteuse et guitariste Annetta Langerová confirme son originalité avec un nouvel album intitulé « Je suis ». Ex-lauréate de l'émission de télévision à la recherche de la nouvelle star 2004, Annetta Langerová a su échapper à l'écueil de ce show qui la lance sur les rails et emprunte sa propre voix. À 23 ans, « Je suis » est son troisième album. La critique le qualifie de fleuron de la pop tchèque et de compromis idéal entre Annetta chanteuse et Annetta parolière et auteur de certaines chansons. Annetta puise dans le Britpop, un mouvement de rock alternatif du milieu des années 90. La chanson pilote du nouvel album, Accalmie, est caractérisée par la présence de violon et d'un piano minimaliste.
Kamen, ruku v ruce půjdou ven, svět ten už je nechytí v nebytí. Jenže co se schová, to se postrácí.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le programme en français de Radio Prague. Je vous dis au revoir. Nasredano.
Znám pár míst, z nich tají se mi dech. A buď si jist, že pro ně místo v srdci nenajdeš. Člověk na čas ztratí to poslední, co má. A k modlitbám se vrátí, až mu bude zpívat tma. No tak hudbo hraj, ať tu nejsem sama. Jen já tma, jen já tma, bolavá. Plamen zasíná v nás, dál už není, nezbyla nám síla. Jsme poražení do prázdných.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.